Witi vun der beim Maurice Molitor as lo eng Pädiaterin aus dem CHL, die op Infektionskrankheiten bei Kanner spezialisiert ist.
Dr. Isabelle de la Fuente, bonjour.
Bonjour.
Les vacances scolaires touchent à leur fin, la rentrée des classes approche. Est-ce qu'il y a lieu de se faire du souci?
C'est une bonne question. Donc, c'est sûr que la situation pendant l'été ici au Luxembourg est restée relativement calme pour ce qui concerne les infections plus graves par la COVID chez les enfants. Mais nous sommes dans un moment où il faut rester très, très attentive à la population pédiatrique parce que la situation n'est pas encore sous contrôle et donc énormément d'infections arrivent maintenant chez les jeunes et chez les enfants. Donc c'est pratiquement un tiers des infections actives au Luxembourg sont chez les jeunes. On se retrouve avec un virus qui est quand même plus contagieux chez les enfants et donc ça, on est sûr de cela maintenant avec le variant Delta. Donc on s'attend à ce qu'il va y avoir plus d'infections maintenant avec la rentrée scolaire. Et on n'a pas encore des réponses certaines par rapport à la gravité de ce virus chez les enfants, donc du virus Delta. Oui. En sachant que voilà, nos collègues américains, canadiens rapportent un petit peu plus de gravité avec ce variant chez les enfants, même si ce n'est pas quelque chose que nous avons encore vécu chez nous. Mais donc on reste quand même assez préoccupés et très attentifs de ce qui va se passer chez les enfants.
Il y a d'ailleurs aux États-Unis des écoles qui ont dû refermer quelques semaines seulement après la rentrée des classes.
Oui, donc on s'est retrouvé avec des situations avec effectivement des virus plus contagieux qui ont conduit rapidement avec des infections, des chaînes de transmission importantes en classe et à des fermetures de classes, tout à fait.
Et même en France, il y a eu,
depuis,
eu des fermetures d'écoles.
Voilà, les pays qui ont déjà vécu la rentrée scolaire se retrouvent quand même avec des chaînes de transmission plus importantes.
Donc si je vous comprends bien, il est trop tôt pour faire tomber les masques dans les écoles?
Je pense qu'il est trop tôt en tout cas pour arrêter les mesures de protection aux écoles. Voilà, c'est sûr qu'on a beaucoup avancé avec la vaccination. Donc, on espère que cette année devrait être plus facile que les autres années. Mais la vaccination n'est pas suffisante et les enfants ne sont pas vaccinés. Et voilà, justement, à cause de ce virus qui est plus contagieux, si on veut garder les écoles ouvertes, et je crois que ça c'est le plus important, il faut garder les écoles ouvertes. Et bon, ça c'est l'objectif également du ministère de l'Éducation. Ouais. Il va falloir garder des mesures de protection.
C'est au ministère de prendre les décisions, mais comment auriez-vous géré cette rentrée si on vous avait posé la question?
Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour lesquelles on est très content. Je pense que le dépistage, c'est quelque chose qui a pu montrer maintenant avec l'expérience qui est efficace. Donc on sait que le fait de faire des tests réguliers aux enfants permet de détecter des cas rapidement et donc arrêter des chaînes de transmission et garder les classes ouvertes. Et je crois que ça c'est l'objectif principal. Donc ça c'est très bien. Toutes les mesures aussi d'aération des classes sont extrêmement importantes. L'hygiène de main, donc tout ça on est très en faveur. Comme c'est prévu. Par rapport au masque, c'est sûr que c'est une situation difficile et il y a beaucoup de pression politique par rapport au tomber des masques. Et c'est évident que les enfants sont contents de voir les sourires des collègues et au niveau psychologique, ça va être quelque chose de confortable pour eux. Mais bon, si on avait... Je pense que de garder les masques en attendant de voir un petit peu comment va l'évolution et en étant sûr qu'on peut les laisser tomber, aurait été plus confortable pour nous, de nouveau, avec l'objectif de garder ces classes ouvertes et les enfants à l'école.
Donc, a priori, vous vous attendez à une augmentation plus ou moins rapide du nombre d'infections chez les jeunes dès la mi-septembre?
On est déjà en augmentation. Je dirais, depuis le début de l'été ou même le printemps, il y a une augmentation plus significative.
Ça, c'est l'effet voyage.
J'ai dit déjà, même avant les voyages, par l'effet, bon, on fait plus de tests chez les enfants aussi, donc ça c'est quelque chose, même si au Luxembourg on a toujours fait quand même beaucoup de tests, et puis il y a la vaccination maintenant des adultes qui fait que l'épidémie forcément a été vers les plus jeunes. Et donc ça, on sait qu'il y a une augmentation déjà depuis quelques mois. Maintenant, à la rentrée, on est déjà en train de voir une augmentation des cas dans tous les groupes d'âge, surtout liés au retour de voyage, effectivement. Mais on s'attend, oui, qu'avec les retours en collectivité, ces infections vont augmenter chez les plus jeunes.
Parce que le variant Delta est plus contagieux.
Le variant Delta est plus contagieux. Ouais.
La bonne nouvelle, c'est que le pourcentage de vaccinés parmi les enseignants, 90% d'après le ministre, est très élevé. Largement plus élevé d'ailleurs que le taux de vaccination général ici au pays. Chez les élèves de 12 à 18 ans, ce taux s'élève à 55%. Là, il reste du chemin à faire.
Oui, tout à fait. Donc 55%, je dirais, c'est déjà une bonne nouvelle, puisqu'on est dans une population plus jeune, où quand même le bénéfice direct du vaccin est moindre, même s'il y a quand même du bénéfice, et qu'on sait que la vaccination va être la seule porte de sortie pour retrouver une vie acceptable pour ces adolescents. Donc 55%, c'est déjà un bon chiffre, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter les transmissions. Ça, c'est important. Et il faut que de façon large dans la population, on ait une très bonne haute de couverture. Et je dirais, moi, plus que les 55% des adolescents qu'il faut augmenter, c'est les parents. Mmh. Et on sait que la tranche d'âge des parents d'enfants, c'est ceux qui sont les moins bien vaccinés. Et ouais, donc, c'est plutôt ça, en fait, aussi, qui nous préoccupe. Je pense que la priorité est d'augmenter cette couverture chez les adultes.
Claude Muller, le virologue du LIH, que vous connaissez sans doute, était notre invité il y a 15 jours. Et il a dit au cours de cet entretien que pour réduire le risque d'une nouvelle vague d'infection, il faudrait, en fait, que les enfants forcément non vaccinés, de parents volontairement non vaccinés, restent chez eux et continuent à faire du homeschooling. Je ne vous cache pas que cette thèse lui a valu une vague d'insultes sur notre page Facebook. Mais est-ce qu'il avait tort?
Alors, tout dépend du point de vue et quel est l'objectif qu'on cherche. Je pense qu'on ne peut pas laisser les enfants à la maison. Ils sont tous droits à l'éducation. Et donc, indépendamment des décisions des parents, nous devons toujours protéger les enfants et donc protéger contre les infections, mais aussi leur donner une éducation. Et ça doit être la priorité pendant cette pandémie. Les enfants doivent avoir une éducation en présentiel à l'école. Donc, je pense qu'on ne peut pas laisser ces enfants à la maison, mais je pense qu'il est extrêmement important. Et on discutait de ça ensemble. Généralement, on a quand même un très bon taux de couverture au Luxembourg de la vaccination. Donc, pour ce qui est des vaccinations du calendrier pédiatrique, on est quand même dans les deux premières années de vie. On a un taux de couverture au-delà de 90%. Donc au Luxembourg, quand même, nos familles sont pro-vaccination et comprennent l'importance de cela. Et donc je crois que ce qui est très important, c'est de continuer ces campagnes d'information, d'être sûr que les parents sont bien informés pour qu'ils comprennent en fait pourquoi on veut ces vaccins et pourquoi on veut protéger les enfants et l'entourage pour augmenter ce taux de couverture.
Dans une comparaison internationale, est-ce que ce taux est élevé? Les 90% dont
pour
vous
le calendrier de base, oui. On est quand même dans les bons élèves, on va dire. On a quand même un bon taux de couverture, c'est sûr.
D'accord. Donc, le variant Delta est plus contagieux. Est-ce qu'il est également plus dangereux pour les enfants? Faut-il s'attendre à davantage de formes graves qui nécessitent une hospitalisation?
Je dois dire qu'on ne peut pas répondre pour le moment avec certitude. Je n'ai pas l'impression qu'on va se retrouver avec un changement complet d'épidémie. Les enfants étaient quand même beaucoup moins touchés au niveau de la gravité. Et c'est ce qu'on a vu pendant l'été, alors qu'on avait déjà une prépondérance de virus Delta. Malgré qu'on a continué à avoir des infections chez les enfants, on a eu peu d'hospitalisation. Donc je ne pense pas qu'on va avoir maintenant des tableaux très différents avec des formes beaucoup plus graves. Mais est-ce qu'on va y avoir quand même un tout petit peu plus de gravité? Et donc, s'il y a plus d'infections, est-ce qu'on va avoir plus d'hospitalisations et quelques cas plus sévères? Ceci est possible. Les États-Unis sont en train de voir une augmentation d'hospitalisation. Ils ne sont pas encore sûrs. Si on est face à un variant plus grave, ils sont quand même quelques cas d'enfants avec des tableaux plus graves. Est-ce que c'est encore significatif? C'est difficile. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les données sont très hétérogènes d'un État à l'autre. On sait par exemple aussi que les États qui ont très bien vacciné la population adulte ont beaucoup moins d'enfants hospitalisés que les États qui ont peu vacciné. Donc voilà, il faut un peu plus de recul avec ces données, mais c'est sûr qu'il faut rester très attentive. Ouais. Et il n'est pas exclu qu'on ait quand même un taux d'hospitalisation un peu plus élevé que ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Pour l'instant, il n'y a pas d'hospitalisation à la Cana Clinique. Du moins, hier, il n'y en avait
alors,
aucune.
Alors hier, on n'avait pas d'hospitalisation. On avait un enfant lundi qui avait une infection Covid qui est rentrée donc à la maison lundi. Ouais. Et on a eu quelques très peu des cas pendant les mois de juillet et août.
Parlons un peu de la vaccination pour les enfants. Le vaccin est la meilleure protection pour autant qu'on puisse se faire vacciner, ce qui n'est pas encore le cas pour les enfants de moins de 12 ans. Les études sont pourtant en cours. Quand peut-on s'attendre à des résultats?
Alors, les dernières nouvelles qu'on a sont que les études progressent bien. Donc, il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a pas eu de problème. Et donc, on s'attend à voir des nouvelles. Initialement, on nous a dit en tout cas pour la fin de l'année. Et avec un peu de chance, je pense que pendant l'automne, on devrait avoir les premiers résultats pour la tranche d'âge de 6 à 12 ans.
Est-ce que ces études concernent tous les vaccins disponibles ou uniquement les ARN?
Non, pour le moment, c'est les vaccins ARN. D'accord. Donc, vaccins Pfizer et Moderna qui... qui ont des études actives en cours pour les enfants.
Dès que les études sont disponibles, il faudra une recommandation ici au Luxembourg du Conseil supérieur des maladies infectieuses. Est-ce que les pédiatres sont associés à l'élaboration de cet avis? Est-ce qu'ils le seront?
Oui, bien sûr. Donc déjà pour la recommandation de la vaccination chez les adolescents. Bon, déjà, il faut savoir qu'au Conseil supérieur des maladies infectieuses, on est quelques pédiatres. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, les pédiatres font partie du Conseil supérieur des maladies infectieuses. Et en plus, quand ça concerne des sujets des enfants comme la COVID, et donc c'était le cas pour la vaccination des adolescents, c'est des discussions qu'on a avec la Société luxembourgeoise de pédiatrie. C'était pareil pour la vaccination chez la femme enceinte. C'est des discussions qu'on a eues au sein du Conseil supérieur, mais également avec la Société luxembourgeoise de gynécologie.
Et ce n'est qu'après une telle recommandation qu'on pourra passer aux vaccinations. Ouais, donc, ce ne sera certainement pas avant la fin de l'année.
Je ne pense pas. Il faut d'abord les études. Une fois qu'il y a l'étude, il faut d'abord l'accord par l'Agence européenne du médicament, qui doit faire quand même, elle, son analyse indépendante et qui doit juger que le vaccin est efficace et également sécuritaire. Et puis, une fois qu'elle est passée l'accord de l'Agence européenne, le Conseil supérieur doit également analyser la situation. Et des fois, on aime bien même avoir encore un peu plus de recul par rapport au nombre d'expériences et des doses administrées chez les enfants. Donc, ça prend quand même un peu plus de temps parce que, de nouveau, on veut être sûr, premièrement, de l'innocuité et la sécurité de ces vaccins chez les enfants.
Et dans un premier temps, ça ne concernera que les enfants de 6 à 12 ans, de toute façon. Est-ce qu'il y a déjà des études en cours pour les moins de 6 ans?
Oui, il y a également des études en cours. Mais de nouveau, c'est des études différentes parce que c'est le même type de vaccin, mais avec des doses différentes, des plus petites doses. Et donc, c'est des études parallèles. Et oui, effectivement, déjà à partir de 6 mois, pour les enfants de 6 mois à 2 ans, il y a déjà des études en cours.
Mais qui prendront plus de temps.
Qui prendront plus de temps.
Bon, ensuite, il s'agira évidemment de voir ce que décideront les parents. Vous êtes en contact avec de nombreux parents. Quelle est votre impression? Est-ce que les parents sont plutôt impatients de pouvoir faire vacciner leurs enfants ou est-ce qu'ils hésitent?
Je dirais il y a de tout. Donc, généralement, les vaccins, les parents sont quand même très concernés et veulent effectivement que les enfants soient en sécurité, puis que les enfants puissent retrouver une vie sociale et une éducation normale, on va dire, entre guillemets. Et donc, bien sûr, ils ont aussi beaucoup d'espoir avec le vaccin, mais ils sont également concernés par la sécurité de ces vaccins, encore plus que pour eux. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de beaucoup d'informations et ils ont énormément des questions. Donc, on a eu énormément des questions depuis même l'arrivée des vaccins avant chez les adolescents. Et je crois que ça, c'est très important d'avoir des canaux d'information et de pouvoir donner ces informations aux parents. C'est extrêmement important.
Persuader les parents anti-vaccins des bienfaits du vaccin pour leurs enfants risque d'être très compliqué, de toute façon.
Alors ça, on sait, mais on s'attend normalement, on sait dans la population que les vraies personnes qui sont anti-vaccinales restent un tout petit pourcentage de la population. Et donc, c'est là, c'est souvent très difficile. Mais pour le reste, généralement, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des données et pouvoir informer correctement les gens.
Pour conclure, docteur, au début de la pandémie, on nous disait que le risque que les enfants développent des formes graves de la maladie était quasiment nul. Ce n'est plus vrai aujourd'hui.
Ce n'est plus vrai, mais il est quand même très faible. Là, on reste quand même avec des chiffres très faibles. Les risques qu'un enfant finisse sous soins intensifs avec une infection Covid restent quand même très faibles. Elle n'est pas nulle. Le risque des décès a été nul au Luxembourg. Donc, on n'a pas eu des décès d'enfants par la Covid. Donc, ça reste quand même très rassurant. Donc, le message reste quand même que les enfants sont quand même beaucoup moins touchés par des formes graves, par cette infection. Maintenant, beaucoup moins, ça ne veut pas dire zéro. Donc oui, il y a quand même toujours un risque de certains enfants plus vulnérables ou un enfant sans pouvoir prédire pourquoi ça arrive à lui et une forme plus grave.
Il n'y a pas eu de décès d'un enfant au Luxembourg, mais il y en a eu dans le monde, évidemment.
Il y a eu dans le monde, il y en a eu en Europe, il y en a eu ailleurs dans le monde, tout à fait.
Y a-t-il des cas de long Covid chez les enfants?
Oui, il y a des cas. Donc on a peu de données et moins de données que dans la population adulte. Probablement, c'est un phénomène qui touche moins les enfants et les adolescents que les adultes, mais on voit de plus en plus et on est en train de voir maintenant ces données d'enfants et adolescents qui ont des symptômes longs et qui persistent après une infection et même après une infection bénigne. Mmh. Voilà, des enfants qui gardent des fatigues ou même des problèmes respiratoires ou des problèmes de concentration. Donc, cela arrive aux enfants ou aux adolescents également.
Donc ce sont plus ou moins les mêmes symptômes que chez les adultes.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez vu des cas déjà au Luxembourg?
Oui, j'ai vu en consultation des enfants qui arrivent chez nous parce qu'ils ne sont pas retrouvés leur état habituel après l'infection.
Ich finde mir geschwärzt mit der Pädiatrin Isabel de la Fuente, die auf Infektionskrankheiten bei Kanner spezialisiert ist. Docteur, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci beaucoup.